Bienvenue dans votre Mac du rugby. Mac du rugby un peu particulier au niveau de la semaine, puisque si vous nous écoutez ce soir, nous sommes mercredi, 21h. Autrement, vous pourrez nous réécouter jeudi, jour de match. Et oui, jour de match depuis nouveauté, depuis cette saison où chaque semaine de match, vous aurez une rencontre le jeudi, toutes les autres le vendredi. Cette semaine, c'est au tour des Biterrois qui reçoivent le Lyon Olympique Universitaire. À côté de moi, Rémi et Gwen, pour m'accompagner. Salut à vous.
Salut Seb, salut Gwen et salut à tous les auditeurs.
Salut Rémi, salut Seb et salut à tout le monde.
Alors, Béziers-Loup, aujourd'hui, troisième journée de ce championnat de Pro D2. Un choc. C'est un choc en troisième journée, ça peut se comprendre. Les deux équipes sont invaincues après deux matchs. Mais, ce Lyon, ce loup, on le voit gros, on le voit fort, on le voit féroce, gourmand dans ce championnat. Les objectifs ont été annoncés en tout début de saison. Un budget énormissime pour le Pro D2. Rémi, raconte-nous cette équipe du Loup qui viendra ce soir, si vous nous écoutez jeudi ou demain, à la Méditerranée à 20h45.
Donc honneur aux visiteurs, en effet Loup qui se déplace donc avec des intentions forcément annoncées par les Rodaniens. Donc on rappelle le duo qui entraîne ce club bien connu du côté des Biterrois avec Pierre Minoni et Sébastien Bruno accompagné de David Ellis pour la défense. Donc c'est un trio qui va venir avec beaucoup d'ambition, notamment grâce à ce bon début de saison comme tu l'as souligné avec la victoire contre le CSBJ Bourgoin 30-19 lors du derby. Et ensuite, lors de la victoire extérieure à Mont-de-Marsan, 22-18, jeudi dernier. Ce qui veut donc dire que les Rodaniens vont venir avec un petit jour de récupération supplémentaire par rapport à Béziers. Est-ce que ça aura son importance? On en discutera lors du débrief de samedi soir. Maintenant, voilà, Lyon, on l'a présenté comme le grand favori du championnat de Pro D2. Je viens de dire que ça saute aux yeux par rapport au recrutement qui a été effectué par la zone du président Loubet, en fait. Quand on voit les noms comme Atoub, Saint-Gé, Bonner, Figueroa, voilà. Polo, Durand, Nalaga, je m'arrête là, je n'arrête plus, Quider, Tufua, etc. Donc c'est vraiment un recrutement 3 étoiles du côté de l'ancien pensionnaire top 14 pour remonter immédiatement, bien entendu, sur l'étage supérieur. Maintenant, voilà, le Loup aussi a quelques difficultés par rapport à quelques blessures. Il n'y aura pas Nalaga demain, il n'y aura pas Monsieur Bonner à quand même en troisième qui sera quand même, qui va manquer du moins de sa présence. Donc c'est vrai que les Rodaniens se présentent avec une équipe, on va le voir dans la composition d'équipe d'ici quelques minutes, non pas remaniée, mais en tout cas avec beaucoup d'intention, annoncée comme on a pu l'entendre chez nos confrères, pour essayer de remporter la victoire.
Malgré tout, Lyon ne vient pas
victime.
Voilà, ils sont malgré tout pas très sereins de venir à Béziers. Ils ne veulent pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué.
Remarque que les dernières années, ils sont venus à des périodes différentes, mais toujours en début de saison, si je dis pas de
oui,
bêtises, et ils sont repartis bredouille à chaque fois. Je ne parle pas de l'époque avant la fédérale, où alors là, ça a été festival à Méditerranée, mais le dernier match de Chabal à Béziers, il doit encore s'en souvenir, Zouer lui avait fait quelques chatouilles aux côtes.
C'était il y a 2 ans avant qu'il remonte, on avait gagné 12-9 et nous avions déjà Boyer comme arbitre.
Ah,
donc,
déjà ?
Oui, c'était Monsieur Boyer.
Oh, il nous aime bien.
Cette fameuse règle de la carence qui n'avait pas été appliquée, c'est bien ça, contre Massy.
C'est ça.
Voilà. Donc en effet, on va passer à la composition de l'équipe de Lyon pour mettre le pied dans le plat.
Il faut rappeler peut-être qu'il y a des joueurs de Béziers, parce qu'il y a beaucoup de Biterrois, d'anciens Biterrois dans cette équipe, et surtout les entraîneurs, Pierre Mignoni et Sébastien Bruno, qui étaient, j'allais dire, quelque chose qui va presque nous marquer, au début du siècle, qui étaient à Béziers, au tout début du 21e siècle, c'était sous l'ère d'Alain Yardet.
Et ouais, déjà ça passe à presque plus de 10 ans, donc ces hommes-là ont surtout fini bien leur carrière du côté de la Rade et du côté du RC Toulon, et sont donc venus appliquer et prodiguer leurs soins pour essayer de faire remonter cette machine lyonnaise. Donc on va passer donc à cette composition d'équipe lyonnaise que vous
Allez.
Attendez. Alors devant, du classique, du Prez Polo et Atoub, donc du très solide, très compact pour cette première ligne. En seconde ligne, toujours pareil, dans le même registre, Massif, Basson et Nuvel. Donc ça va être vraiment un 5 de devant qui va essayer de concasser le pack biterrois. Troisième ligne, on va retrouver Puricelli, Enzi, qui était un temps convoité par Béziers l'année dernière, du moins selon la rumeur, et Tuifua, le transfuge de Bègle Bordeaux. La charnière, on connaît très bien le numéro 9, l'ancien biterrois, puisqu'on en parlait tout à l'heure avec Pierre Mignoni et avec Sébastien Bruno. C'est Durand qui va faire office de 9, qui sera accompagné du néo-zélandais Brett. Derrière, méfiance, j'ai envie de dire focus, notamment sur cette paire de centres qui va être alignée. Sukana Veta et Paea, c'est du solide,
c'est, du lourd,
c'est rapide, c'est du lourd, oui, Seb, c'est du très lourd. Ça franchit, ça casse souvent les premiers plaquages. Donc attention à ces deux-là, vraiment surveiller comme le lait sur le feu. Sur les ailes, on va retrouver Arnold qui a marqué l'essai de la victoire du côté de du Stade Boniface, accompagné de Regard sur l'aile gauche à l'arrière. Loursac pour terminer, les remplaçants. On va retrouver Fitzpatrick, Burkle, Singer en seconde ligne. Attention à la rentrée de Ferns, un petit peu comme Bakimaité, c'est un peu l'impact player de cette équipe lyonnaise. Ensuite, pour derrière, on trouvera Figueroa, le 9, l'Argentin, qui sera accompagné de Foury, Podgitzer et Thuy. Donc vraiment une équipe du loup, j'ai envie de dire, très massive, sur non pas que sur la balance, mais aussi dans les, j'ai envie de dire, dans les intentions et surtout dans le, ben, j'ai envie de dire, le talent.
Alors, cette composition-là, qu'est-ce qu'elle inspire ? Et il va bien y avoir des failles. On l'a vu notamment lors du dernier match à Mont-de-Marsan. Mont-de-Marsan, le score était étriqué. L'un des essais lyonnais a été un peu sur un coup du sort. Où se situent bon, les points forts déjà, les points forts de cette équipe de Lyon, mais surtout les points faibles ?
Alors, je veux dire, le point fort de Lyon, c'est une équipe qui est interchangeable, avec un banc qui est constitué plus ou moins de titulaires en puissance, en connaissant déjà les blessures qu'on a égrenées à début d'émission. Bien entendu, qu'est-ce qui fait la force de ce pack? C'est sa force, donc, c'est sa densité physique, qui va permettre au loup, de faire beaucoup de ravages au sein de ce Pro D2. Maintenant, voilà, le temps risque d'être lourd, annoncé par la météo, apparemment, il y aura des pluies le matin, donc le terrain risque d'être un petit peu détrempé. Béziers, on le sait, a comme volonté de vouloir dépasser du jeu. Est-ce que c'est forcément opportun face à cette équipe? On le verra sur les coups de 22h45 demain soir. Voilà, donc c'est bien de faire dépasser un gros pack. Maintenant, il va falloir aussi les contrer et surtout en défense être attentif pour pas prendre des vagues lyonnaises.
Alors, question, point fort, on vient de le voir. Les points faibles. Quels sont les points faibles à exploiter dans cette équipe lyonnaise?
Alors, le point faible, c'est justement ça, c'est le fait d'avoir recruté beaucoup de monde. La cohésion n'est pas forcément au rendez-vous. À Lyon, à Mont-de-Marsan, c'est pas forcément, le talent pur qui a fait gagner les Lyonnais. C'est peut-être.
Que ce soit la beauté du geste ou du jeu qui a primé. Hein.
Tout à fait. Et puis même la mêlée qui a plus ou moins souffert face au Montois, qui a été fortement pénalisée, notamment en première période. On a vu que Sobus s'est régalé de sanctionner cette mêlée rodanienne. Donc voilà, ces points faibles, il va falloir appuyer dessus. Alors, nous, on n'a pas forcément un pack, on va dire, qui est réputé pour sa puissance, hein, mais une certaine mobilité. Donc, par rapport dans les airs, par rapport à un toucher, on pourra peut-être les embêter, leur priver de quelques munitions et mettre en place notre jeu que Manny Edmonds veut mettre en place durant cette saison.
Alors, ben justement, transition toute faite avec Manny Edmonds. La compo est tombée cet après-midi. Gwen, quelle composition d'équipe avec le banc, bien entendu, Manny Edmonds a mis en place pour contrer ces Lyonnais?
Donc la compo, il y a eu juste quelques changements, mais sinon on reste sur du Fernandez, Marco Pintofer et Brison pour la première ligne. Mm-hmm. En seconde ligne, Lambé, Phoenix, Batty, qui est capitaine. Pour la troisième ligne, Barrère sera associé à Zouer, donc Zouer qui fait son entrée en tant que titulaire cette saison. Et Bourdeau, qui lui est à la place de Meite, qui n'est que remplaçant. Ensuite, la charnière, Valentin Mounro, on ne la cite plus. Pour les centres, Pouletua, qui est associé à Max. Pour les ailes, Vakasegou, Egmir, et en arrière, Thibaut Suchier. Pour les remplaçants, on a Fualo, Manucula, Seit, Ramoneda, Bisman, Gerber, Meite et Tokoto.
Alors, s'il y a beaucoup d'anciens biterrois du côté de Lyon, il y a également quelques anciens lyonnais côté Béziers, Lambé, Mounro et le troisième,
Suchier.
et Thibaut Suchier. Donc on peut comprendre que d'aligner ces trois-là, ça va peut-être leur donner l'envie de se dépasser, de se montrer auprès des anciens collègues. Mais quel va être le point, qu'est-ce qu'on peut attendre de Béziers dans cette configuration-là face à Lyon?
Alors c'est simple, on en a parlé avec Magnène Mons, on fera référence tout à l'heure avec les interviews qu'on a récoltées lors de la conférence de presse. C'est simple, je pense que Hamza Zouer est présent pourquoi ? C'est pour chasser le 10, comme il a pu le faire auparavant par rapport à des grosses équipes, et surtout pour protéger un second rideau, l'Hakim Nouro, qui n'ont pas à des faiblesses criardes en défense, mais je suis certain que Lyon va jouer dans sa zone. C'est prévu, c'est même couru d'avance. Donc je pense que Zouer, par rapport à Ramo, Ramoneda qui a fait un très très bon début de saison, très précieux dans les rucks, mais je pense qu'Hamza Zouer va compenser par peut-être un peu plus de mobilité et être plus présent sur les rucks de suite. Ensuite, comme la compo qu'a annoncé Gwen, on retrouve un premier centre Pouletois qui va contrer, on espère, avec Sébastien Max, mais surtout Pouletois par rapport à sa densité. Les fameux centres qui sont alignés en face, Sukanaveta et Paea, donc qui va apporter un peu plus de, j'allais dire, de puissance et de rigueur défensive. À savoir, la petite info, c'est que Simon Chachenko sera absent pendant 3 semaines, qu'on retrouvera donc après le prochain bloc, la prochaine arrêt par rapport à la Coupe du Monde, donc par rapport à une petite déchirure au niveau du mollet. Et donc le retour sur le banc de touche de Bisman. Donc Magnène Mons, qu'est-ce qu'il veut? Je vais pas tout dévoiler parce qu'il nous l'a dit lors de l'interview. Ben, il veut que les Biterrois jouent, aient confiance dans leur jeu, et ben, je viens de dire, prennent des risques pour pouvoir renverser ce fameux ogre qu'est le loup.
Alors justement, Magnène Mons, mais également Sébastien Max et Lucky Munro, tu es allé les interroger après la conférence de presse, c'était ce matin au stade de la Méditerranée. Avant qu'on les écoute, comment tu les as jaugés à veille de ce choc déjà?
Très serein, je viens de dire, on est... Mais voilà, enfin, on ne se prend pas la tête non plus. La victoire d'Aix, a du moins fait du bien, a confirmé certaines choses, notamment au domaine aérien. Alors, Magnène Mons a parlé de conquête. C'est vrai que la mêlée a fait beaucoup de bien par rapport à ce déplacement. Maintenant, il faut un petit peu relativiser aussi, mais beaucoup d'absence en face. Donc, les mots que vous allez entendre, c'est simple, c'est rigueur, efficacité et plaisir.
Magnène Mons, Sébastien Max, Lucky Munro, c'est sur RCB Radio Ciel Bleu.
Avec Magnène Mons, entraîneur de la SEBH, rapide retour sur la victoire d'Aix. Quelles ont été les satisfactions pour toi?
La conquête. La conquête, on était très performant là-dessus, en mêlée comme on touche. Donc, je pense qu'après les stats, on a récupéré plus que 50% de le ballon en mêlée et un bon 25% en touche, donc on était très, très content avec ça.
On a vu le coaching qui a été intéressant, avec notamment la rentrée de Bakary Meïté qui a marqué, c'était assez fabuleux. Est-ce que ça peut te servir pour les prochaines étapes, avec en alourdissant peut-être un petit peu plus de banc de touche?
Ouais, donc en fait, on a, les deux derniers matchs, on a été un peu dessus avec le banc, qu'ils n'apportent pas assez de fraîcheur sur le terrain comme on souhaitait. Mais par contre, Baki nous a amené, il a fait un très bon match depuis le banc et on est très content avec le 25 minutes, 30 minutes qu'il a fait. Donc, on a besoin de ça plus en plus par les joueurs qui sont sur le banc, et il a montré un bel exemple.
On parle souvent du mot cohésion, on en a parlé tout à l'heure avec les joueurs. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui te tient à cœur par rapport à ce groupe, et à Romain Carmignani aussi, Pierre Touderas, qu'on a l'impression qu'il y a vraiment une symbiose par rapport à ça.
Ouais, c'est quelque chose que nous on a ciblé à la fin de la saison dernière, qu'on avait un peu manque de cette cohésion, donc on essaie de bosser ça plus en plus cette année pour avoir un bon groupe bien sain et bien entouré. Et là, pour l'instant, ça se passe très bien. Et avec ça, on essaie d'intégrer les femmes du joueur, les copines, les familles, tout ça. Donc, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. Ça aide la communication entre les joueurs aussi. Donc, c'est des petits trucs qu'on ne pense pas trop importants, mais finalement, c'est des choses comme ça qui comptent dans une coupe.
Tout à fait. Jeudi, donc, débarque le Loup. Donc, on a déjà parlé aussi avec Joueur tout à l'heure. Quel a été l'axe sur lequel tu as vraiment appuyé ta semaine d'entraînement?
Ouais, comme d'habitude, on met beaucoup de focus sur nous. Donc, on a regardé la vidéo d'Action pour vendre ce samedi matin. Donc, on était un peu dessus avec le contenu du match, en fait. Donc, voilà, on avait un positif. On pense que c'était la conquête, mais le reste, on était moins performant que le match contre Mont-de-Marsan. Donc voilà, on avait besoin de travailler sur ce qu'on n'a pas bien fait et de voir pourquoi on n'a pas bien fait des choses. Donc notre but, c'est de corriger tout ça le plus vite que possible.
Alors Mani, est-ce qu'on peut voir la composition de l'équipe pour jeudi soir?
Ouais, donc il n'y a pas beaucoup de changements par rapport à l'équipe qui a joué contre Aix-en-Provence. Donc la première ligne reste, pardon, la 5 de devant, ça reste le même. La troisième ligne, il n'y a qu'un seul changement, donc on va sortir Ramonida et remplacer par Zouer. Donc Ramo, il va être sur le banc. Le charnier reste le même. À cause de la blessure de Shevchenko, on va mettre Pulutua au premier centre. Et à sa place en 15, on met Suchier. Seb Max reste au centre avec les alliés qui restent les mêmes. Sur le banc, ça ne change pas. Donc, des joueurs qui, sauf pour, pardon, Shevchenko, il y a Bisman qui rentre sur le banc à la place de Shevchenko.
Mani, merci.
Merci.
Avec Sébastien Max, centre de la SPH. Seb, on revient rapidement sur Aix. Donc, ton ressenti sur cette première victoire extérieure de la saison?
Ben c'est toujours une victoire qui fait du bien à l'extérieur, d'autant plus que c'est le premier match à l'extérieur, donc ça nous met en confiance. Après, comme l'a dit Loki, enfin, on n'a pas fait les choses parfaitement et il y a eu beaucoup d'erreurs, même si on a gagné. Donc voilà, cette semaine, on a travaillé et on va tout faire pour gagner ce match contre Lyon.
Toi qui fais partie d'un des trois quarts, on sent un groupe équilibré derrière, beaucoup de justesse, hein, j'ai envie de te dire, hein, vraiment des attaques tranchantes. Vous êtes en train de vous trouver de plus en plus, j'ai l'impression.
Ben c'est surtout qu'on s'appuie sur. Voilà, on essaye de faire des choses simples, des choses qu'on sait faire et voilà, on les fait à 100%. Après, on travaille correctement aux entraînements, donc voilà, on essaie de le retranscrire en match et voilà, c'est ça qui fait notre force, je pense.
Pour ton cas perso, déjà deux titularisations pour commencer le championnat, tu dois être heureux.
Ben oui, ça fait toujours plaisir de jouer. Qu'on soit titulaire ou remplaçant, c'est toujours la même chose pour moi. Enfin, j'essaie de donner le meilleur de moi-même. Après, pour l'instant, les coachs me font confiance. Voilà, j'essaie de leur rendre cette confiance.
Allez, on va parler du Loup qui arrive donc jeudi soir à Méditerranée. Donc, ton ressenti sur ce gros, grosse équipe qui va arriver avec Dalonga?
Ben oui, c'est Lyon, c'est une équipe qui descend de top 14. C'est une équipe solide qui s'appuie sur beaucoup de joueurs d'expérience qui ont joué en top 14 ou ailleurs même à haut niveau. Donc voilà, il va falloir qu'on reste dans notre registre, qu'on défende bien, qu'on soit discipliné, qu'on fasse des choses simples. Et voilà, je pense que si on met tous les ingrédients pour ce match, je pense que ça passera.
Pour terminer, un petit mot aux supporters. Il risque d'y avoir des tribunes un petit peu plus remplies peut-être, même si c'est un jeudi soir. Est-ce que tu as un message à faire passer?
Juste qu'ils continuent à nous encourager comme ils le font, que ce soit à domicile comme à l'extérieur. Je pense que ça nous encourage et quand on est sur le terrain, c'est sûr qu'on a un petit supplément d'âme quand on joue, quoi. Quand on entend les gens derrière nous, c'est toujours plaisant. Donc voilà, qu'ils continuent à être comme ça.
Sébastien, merci.
De rien.
Avec Lakin Monro, donc en préparation pour le match contre Lyon jeudi soir. Donc on revient rapidement sur la victoire à Aix-en-Provence, qui a dû vous faire plaisir à tout un groupe. Le retour a dû être bon samedi soir, fait vendredi soir.
Ouais, bien sûr, on était très content de gagner, mais la victoire se cachait beaucoup de choses qu'on a fait pas parfaitement. Donc on recommence notre travail lundi matin et maintenant, oui. On pense que le match contre Lyon et on a hâte de jouer jeudi soir.
À la fin du match, on a senti une chose assez palpable, c'est la cohésion du groupe. On sent vraiment que vous êtes tous unis, une belle bande de potes en quelque sorte.
Ouais, ça c'est sûr. On a les bons amis, tout le monde. Quoi?
S'entend
bien.
Ouais, c'est bien.
Ouais. Non mais je pense tout le monde. sont dans le même bateau. On travaille ensemble et ça marche bien jusqu'à maintenant pour nous.
Deux victoires en deux matchs, donc c'est un bon début de saison pour la SBH. Arrive le grand favori, ton ancien club, le Loup, que tu connais très bien. Un petit ressenti sur ton ancien club?
Oui, un peu. C'est mes amis qui vont venir. Ça va être cool de voir les mecs, mais pour moi, c'est une chance de montrer les skills de moi. Et j'espère qu'on peut avoir un bon résultat jeudi soir.
Quel sera l'objectif, sûrement, certainement pour jeudi soir? Montrer du jeu. On a vu qu'en défense, elle était assez au point contre Aix-en-Provence, un bon rideau défensif. Est-ce qu'il va falloir s'appuyer dessus pour battre le Loup?
Oui, je pense que le Loup, c'est une équipe très forte. C'est le grand favori pour les deux. Donc, on doit faire attention quand on défend. On a travaillé beaucoup notre défense cette semaine. Donc, j'espère que ça va être assez pour jeudi soir et on va avoir de bons résultats.
Lucky, merci.
Alors, de retour. Avant qu'on passe à la journée pour voir un petit peu les pronostics des uns et des autres, comme d'habitude, on va suivre deux joueurs. Alors, qui suit ce week-end? Enfin, ce week-end, non, c'est même plus ce week-end parce qu'on joue le jeudi. Qui on va suivre ce jeudi? Un avant, un arrière. On vous rappelle la règle. On suit deux joueurs, un avant, un arrière. Et ensuite, on fait le point dans le débrief le samedi pour voir ce que ce joueur a pu apporter dans le jeu, si ce joueur a été décisif ou pas. On a déjà vu certains joueurs les journées précédentes. Alors, ce jeudi soir face au Loup, qui suit?
On va parler de Zouer, Hamza Zouer devant, pour son retour en tant que titulaire pour ce début de saison.
Et pourquoi?
Pourquoi? Ben, pour la simple et bonne raison, c'est que Manny Edmonds compte énormément sur lui demain soir. Donc on va le surveiller de près. On va espérer que sa performance sera à la hauteur de nos espérances. J'allais dire qu'avec Hamza Zouer, on est rarement déçu quand même.
Ouais, ça c'est sûr. Zouer, c'est la sûreté qu'on joue presque, j'ai envie de dire. Parce que depuis qu'on l'a, bon, ben, on sait ce qu'il vaut, hein, on sait ce qu'il fait. Donc,
Défensivement... On peut pas. Pourtant, d'après certains experts, il n'avait pas le profil pour percer et éclater en Pro D2, comme quoi.
Mais comme quoi, voilà, c'est vrai qu'il a pas un profil gaillard, puisqu'il fait moins de 5 kilos. C'est même le profil le plus léger de toutes les troisième lignes que compose la SBH. Maintenant, il est technique, hein, dans ses plaquages, hein, il se relève très vite. Hein, il est un petit peu, j'allais dire, le pendant de Barrère sur son opposé. Donc il va y avoir deux profils qui vont être quand même, malgré tout, c'est assez contradictoire, complémentaire, mais efficace, je pense, sur les premiers ballons chauds. Donc, on verra Hamza Zouer de quel bois il sera fait jeudi soir.
Donc, on suit Hamza Zouer pour les avants et derrière.
Mais pour les arrières, on va suivre Sébastien Max. Donc, Max, c'est pas le genre de joueur qu'on voit qui se détache des autres pendant les matchs, mais c'est celui qui sans doute un qui plaque le plus et qui rate le moins. Donc, je pense qu'avec Max, on aura une défense solide à l'arrière. J'espère ne pas me tromper et qu'il continue sur son chemin si bien commencé.
Efficient, c'est le mot qui correspond à Sébastien Max. En effet, on le voit pas souvent. C'est pas le garçon qui va faire une percée de 50 mètres après un cadrage débordement. C'est pas lui faire un jure, loin de là. Au contraire, comme il a dit lors de l'interview tout à l'heure, lui, ce qu'il veut avant tout, c'est faire jouer les autres. Voilà. Donc, il a vraiment cette capacité à transmettre la bonne passe, à cadrer parfaitement son vis-à-vis, et surtout, et j'insiste sur ça, c'est vrai, sur sa très bonne défense qui est pas venue 100%, donc à suivre avec intérêt aussi sur son match demain soir.
Alors, Béziers, on l'a dit, va ouvrir le bal de cette troisième journée de championnat de Pro D2, jeudi à 20h45 sur les antennes de Canal Plus Sport, si je dis pas de bêtises.
C'est ça.
Un pronostic, Béziers-Loup.
Allez, on va se mouiller, hein, puisqu'il faut bien se mouiller quand même, on est là pour ça.
En plus, il prévoit de la flotte. Alors,
il prévoit de la flotte, donc on va quand même carrément s'y mettre. Allez, le déplacement à Aix-en-Provence m'a quand même rassuré sur certains points. Lors des entraînements que j'ai pu voir, j'ai vu un groupe encore une fois piqué, qui se prend pas la tête. Hein. J'ai envie de me faire plaisir demain soir. Qui nous fasse plaisir, vous les auditeurs comme nous les suiveurs. Allez, je vois la victoire de justesse, mais la victoire quand même des Biterrois, 4 points à 1.
De mon côté, je vois aussi la victoire biterroise, mais après le match qu'ils nous ont fait contre Mont-de-Marsan, et a priori...
Elle va nous faire péter le bonus.
non, pas le bonus, parce que le bonus, on n'a vraiment pas de cul avec cette année, donc il y aura un 4-0, mais il n'y aura pas le bonus.
Je vais te suivre pareil, moi. Moi, je vois bien un 4-0, le bonus étant réduit à 5 points. Alors après... Il faut peu se méfier, parce que Mont-de-Marsan n'était pas dans son jour. Aix, bon, a beaucoup de mal. Mais bon, pourquoi pas, Lyon c'est efficace mais pas transcendant. Béziers à domicile va vouloir frapper un grand coup. Phoenix Bati l'a dit sur Rugbyrama en plus aujourd'hui. Ils ont envie également d'être considérés par les autres équipes de Pro D2. Donc je te suis Gwen sur ce 4-0. Le vendredi à 19h, nous aurons USAP Mont-de-Marsan. Alors Perpignan qui a je dirais sauvagement entamé sa saison en allant écraser Carcassonne à l'extérieur. Là, deuxième match pour les Catalans à Aimé Giral, le tout premier de cette saison. Donc, grosse ambiance attendue à Aimé Giral, en plus devant la télé, face à un Mont-de-Marsan, un stade montois qui est déjà en danger après deux défaites, dont une à domicile, c'était la semaine dernière.
Un match qui comporte déjà plusieurs inconnus, surtout par rapport à Mont-de-Marsan, qui risque de démarrer l'année par un fanny complet, avec trois défaites, hein. Si bien sûr ça se passe mal du côté des Mégiral. Perpignan, qui a aussi un petit paramètre à prendre en compte, l'infirmerie est archi pleine hein, du côté des Catalans, donc le banc de touche risque de s'en ressentir, et peut-être à l'heure de jeu ça risque d'être compliqué pour les 100 et or, mais je vois malgré tout avec la belle performance des Catalans, notamment mêlée fermée à Carcassonne, la victoire 4-0.
Ouais, ben je vais te suivre parce que Perpignan, même s'ils ont le match en moins contre Dax, ils ont vraiment fait leur jeu à Carcassonne en les écrasant. Donc ouais, 4-0 contre Perpignan. Pour Perpignan, pardon.
Moi, je vais vous dire 4-1. Enfin, ah. J'imagine Mont-de-Marsan vouloir s'accrocher. Ils ont un petit peu égratigné Lyon. Lyon s'est imposé sur un essai un peu casquette qui leur est tombé dessus vraiment par hasard, et sinon ils auraient pu gagner. Donc je les vois bien accrocher Perpignan et victoire catalane. Biarritz Albi, autre équipe en danger. Le Biarritz Olympique, deux défaites, donne déjà une défaite à domicile. Albi qui s'est rattrapé, alors eux, au classement britannique, pardon, ils se sont retrouvés à zéro, puisque défaite à domicile face à Bayonne et victoire sur le terrain de Bourgoin, donc ils ont mis les compteurs à zéro. Cette fois-ci, nouveau déplacement à Aguilera face à un Biarritz Olympique qui attend, qui espère sa première victoire.
Ah, c'est compliqué là de choisir. Là, parce que Biarritz, je pense qu'ils vont avoir envie de montrer que, enfin, de gagner. Mais bon, ils ont déçu sur ce début de saison. Et Albi, je pense quand même ne pas les voir aller les battre, Biarritz. Donc, ouais, je vais donner Biarritz 4-1.
Je vais jouer la grosse cote, moi aussi. Je m'explique. Biarritz, c'est, je viens de dire, un peu le retour de certains sentiments de l'année dernière, qui peut être très décevante, avec un fond de jeu qui est inexistant, et pourtant Dieu sait qu'ils sont composés de certains joueurs fort sympathiques. Et je vois bien Albi confirmer sa bonne disposition extérieure en s'imposant à Biarritz 4-1.
4-0. Je veux dire 4-0 pour Biarritz. S'ils mettent pas un 4-0 chez eux,
ça va être dur.
La saison risque d'être longue. Albi, bon, ils ont un peu ils se sont remis les compteurs à zéro, donc peut-être pas trop de pression à l'extérieur. Biarritz, les crocs, donc ouais, je vois bien Biarritz 4-0 face à Albi. Autre rencontre, Colomiers-Carcassonne. Carcassonne qui se déplace après sa déculottée à domicile face à Colomiers, qui avait battu au tout premier match Montauban à domicile, qui a été défait à l'extérieur la semaine dernière. Donc, une idée.
Deux équipes qui donc vont chercher à se racheter, forcément, par rapport à la prestation de la semaine dernière. Colomiers qui s'est vraiment balayé à Aurillac, tu l'as dit, mais qui reste quand même à Missé Bendichou, quand même assez, j'allais dire, serein pour l'emporter. Maintenant, voilà. Je vois quand même un score logique de 4-0 sans trop sourciller pour les Colomiers.
Ouais, je te suis. Carcassonne, je pense pas qu'ils aillent qu'ils aillent gagner Colomiers chez eux, tout simplement parce que déjà que j'ai du mal à les voir gagner chez eux, je vais mettre Colomiers 4-0.
Eh ben allez, on suit à 4-0 pour Colomiers. Autre rencontre, alors là, ça va être peut-être difficile. Montauban-Aurillac. Montauban, qui on le sait maintenant, est intraitable à domicile, reçoit un surprenant Stade Aurillacois qui est leader avec 9 points. Alors bon, la place de leader, elle n'est pas forcément, elle ne signifie pas grand-chose, mais Aurillac a quand même, tu l'as dit Rémi, décroché un bonus offensif face à Carcassonne après la première victoire à Aguilera. Pardon ?
Colomiers, non ?
Qu'est-ce que j'ai dit ?
Carcassonne.
Oui, Colomiers. Mais n'hésite pas, coupe-moi. Elle me fait des grands gestes, en fait.
Vous la voyez pas, les auditeurs, mais elle fait des gestes. Hein.
Elle fait des gestes. Donc oui, effectivement, Aurillac a pris le bonus offensif. C'était face à Colomiers, je vais m'en sortir. Donc Montauban intraitable à domicile, Aurillac surprenant leader. Votre choix.
Alors, petite information pour ce match, selon quelques indiscrétions, peut-être qu'il sera reporté à dimanche, hein, au vu des intempéries qui sont déroulées donc, de la limite pyrénéenne. Montauban a vraiment subi, on a vu des photos autour du stade de Sapiac, apparemment assez sévère.
En plus,
donc, on aura la confirmation. La cuvette, oui, forcément, malheureusement, elle porte bien son nom. Bon, maintenant, le match aura lieu tôt ou tard. Et je vois quand même Montauban s'imposer, très difficile à manœuvrer à domicile. Et parce que c'est une équipe qui, maintenant, je pense, maîtrise son sujet en Pro D2, 4 points à 0.
Ouais, Montauban, je pense que Montauban va gagner à domicile. Malgré tout, je vois Aurillac prendre le bonus défensif.
4-1 alors.
4-1.
Bon, moi j'ai visé la grosse cote, j'ai visé le match nul.
Très grosse cote, hein. Gérard, c'est une cote de 20 dans les paris sportifs.
Voilà, je vais viser le match nul parce qu'Aurillac me surprend. Montauban à domicile, mais bon, peut-être que s'ils ont eu des conditions assez défavorables pour s'entraîner et se préparer cette semaine, ça peut peut-être jouer, malheureusement pour eux. Mais voilà, pour moi, grosse cote, match nul sur cette rencontre. Narbonne-Bourgoin, des Narbonnais fringants en ce début de saison, face à Bourgoin qui fait un démarrage à la Biarrotte. Défaite à l'extérieur, c'était à Lyon, un petit peu trop logique, mais surtout défaite à domicile face à Albi la semaine dernière. Alors,
je vais jouer Narbonne. Malgré tout, certes il y a une défaite à domicile, mais une défaite très très juste pour Bourgoin.
De quelques points.
Donc de 3, ils ont eu le bonus, je crois, non?
Il me semble, je sais pas, j'ai pas les scores.
Je vois Narbonne, donc je vois un 4, mais aussi un 1, le bonus défensif, donc 4-1 pour les Narbonnais.
Madame Irma a parlé.
C'est vrai, Narbonne a fait une belle prestation du côté de Jean Daugier, surprenante même, parce que c'est une équipe relativement jeune qui est alignée là-bas. D'ailleurs, bon, je vais dire que Bayonne s'est presque bien sorti, la plus grande surprise de tout le monde. Par contre, Bourgoin s'est fait un petit peu voler, apparemment, sur la feuille de match, avec ses deux cartons jaunes subis coup sur coup. On a vu l'ancien Mitterrand Pouillot pousser à mêler, apparemment pour rien, puisqu'ils se sont fait pénaliser. Donc je crois qu'il y a beaucoup de rancœur du côté des Bergaliens. Attention à la réaction d'orgueil, mais malgré tout, je vois Narbonne solide, 4-1 au Parc des Sports de l'Amitié.
Allez, 4-0 pour Narbonne. Je vois pas Bourgoin faire le nécessaire pour amener un bonus défensif. Bourgoin, je les sens pas trop bien cette année.
C'est un effectif un petit peu juste quand même.
Je pense. Tarbes, Aix. Alors Tarbes, équipe très discrète qui a joué, que je dis pas de bêtises, on est à la troisième journée, donc un seul match, puisqu'ils ont été, j'allais dire, forfait obligatoirement par rapport à l'Embroglio d'Aqua. Donc ils ont joué la première journée de repos, donc ils vont reprendre les terrains depuis, après deux semaines, une grosse semaine de sans jouer, qui va recevoir Aix également en danger, puisque Aix, deux défaites. Hein.
Alors du côté de Trélu, Tarbes qui reste sur une défaite, première défaite initiale contre Carcassonne, là aussi, à la surprise générale, ils sont un petit peu endormis sur le laurier, puisqu'ils dominaient apparemment le match de tête et des épaules durant l'évolution du score. Maintenant voilà, Tarbes quand même, ça reste une équipe, je dirais pas solide, mais je veux dire c'est un vieil habitué de la Pro D2 qui sait réagir à temps, qui devrait prendre ses premiers points, du moins la première victoire de ce championnat. Et je vois même une victoire aisée, je dirais même 5-0 pour les Tarbes.
Ah ouais. Ouais. Va passer après ça.
je vais te contredire, enfin je vais dire quand même la victoire. Malgré tout. Provence Rugby, bon, c'est un début de championnat assez mauvais, on va dire. Mais je vois pas Tarbes aller leur prendre le point de bonus offensif. Donc je vais mettre 4-0 pour Tarbes.
Et pareil pour moi, 4-0. 4-0 pour les Tarbes qui seront frais, fringants, qui voudront rattraper leur première défaite inaugurale face à des Aixois qui, je pense, vont commencer un petit peu à mettre les barbelés en défense, parce que depuis deux matchs, c'est pas trop ça. Dernière rencontre, alors là, ça va être l'inconnu, Dax, qui se lance enfin dans son championnat après moult répercussions,
hésitation, beaucoup de choses.
Surtout, enfin, quand je dis répercussions, c'est que ça, il y a forcément des répercussions dans cet imbroglio sur leur préparation, sur la composition de l'effectif, etc. Dax, premier match à Boyau, premier derby, et pas n'importe lequel. Dax reçoit Bayonne. Peut-être compliqué pour les Dacois dans cette inauguration de championnat.
Ouais, Dax qui commence son championnat par une grosse équipe de Bayonne qui descend de top 14. Bayonne qui sont en train de faire le boulot en ce début de saison. Dax, certes, ils ont été obligés d'avoir un peu plus de temps pour se préparer. L'effectif, ils n'ont pas dû faire beaucoup de recrutement cette année. Ils ont dû perdre des gars, donc je pense victoire aisée de Bayonne, 5-0.
Alors moi, je me méfie de Dax comme de la peste, et je m'explique. Le recrutement a été tardif, la préparation a été tardive, mais alors Bayonne m'a vraiment, vraiment inquiété contre Léonard Bonnet. J'ai pas senti un pack serein, et encore moins les arrière. Notamment, ils ont perdu, je crois, Rouet, leur numéro 9, qui est un petit peu la pièce essentielle de leur... leur puzzle. Moi, j'ai parié sur la surprise, hein, et je suis presque sûr que Dax va faire un gros match pour justement se rassurer et montrer qu'ils méritent leur place en Pro D2, parce qu'ils ont beaucoup à prouver par rapport à ça. Et je joue la victoire des Dacois, 4 points face au Bayonnais, pardon.
Mais je vais pas du tout vous suivre. Je vais mettre une 4-1 pour Bayonne. Je vois des Dacois, comme tu dis, Rémi, accrocheurs, mais je vois des Bayonnais suffisamment prêts et armés pour remporter cette rencontre, qui plus est un derby, donc grosse pression à Dax d'entrée de jeu. Je les sens pas prêts du tout. On voit Aix qui a des difficultés à se préparer. Dax, ça va être encore plus difficile, donc je vois une victoire bayonnaise, 4-1. Voilà, c'est tout pour cette semaine. N'oubliez pas, si vous nous écoutez dans quelques minutes, dans quelques heures maintenant, puisque le coup d'envoi est programmé au stade de la Méditerranée, Béziers-Lyon, 20h45. Quant à nous, vous pouvez nous retrouver pour le débrief, samedi 18h-20h. Rémi, un dernier mot, Gwen.
Allez, donc on prend l'antenne avec Didier Canto à partir de 20h30 sur RCB Radio Ciel Bleu pour vous reparler des compositions d'équipe s'il y a eu du changement entre temps et pour vous commenter le match en espérant que les Rouges et Bleus nous fassent plaisir.
Rémi, Gwen, je vous dis à samedi 18h. J'espère que vous allez passer un excellent match et comme d'habitude, on ne souhaite qu'une seule chose pour nos Rouges et Bleus. Allez, Béziers!